Permettez-moi d'interrompre cet épisode 60 secondes. J'ai un message important pour vous. Atteindre 10 000 euros de revenus mensuels stables et prédictibles, même si vous démarrez de zéro, cela vous semble impossible ? Bonne nouvelle ! Du 30 avril au 5 mai, nous organisons le plus grand événement en ligne francophone de l'année pour les entrepreneurs. Le challenge entrepreneurs.com. 100% gratuit, 5 jours intensifs pour propulser votre business. Chaque jour, vous aurez accès à des sessions live exclusives avec des experts de renom. Ce n'est pas juste un événement en ligne, c'est une chance de faire un vrai changement grâce à des conseils et des méthodes prouvées. C'est une opportunité d'échanger en live avec mon équipe et moi pour faire avancer votre projet. C'est la garantie d'évoluer et de progresser dans un environnement sain et profiter d'une communauté unique. Je vous invite maintenant à réserver votre place. Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, consultez notre site podcastledeclic.fr ou cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Merci pour votre confiance et maintenant, place à notre épisode du jour.
J'ai créé le Chinese Business Club il y a 10 ans à Paris, en démarrant de rien. Quand je parlais de mon projet à quelques personnes autour de moi, tous me déconseillaient vivement de me lancer. Puis finalement, j'ai quand même fait parce que j'y croyais, malgré le fait que je parle pas chinois, que j'ai jamais vécu en Chine. Donc le pari était ambitieux, comme on dit. Les 3 premières années ont été compliquées, un peu galères, jusqu'au jour où j'ai contacté le standard téléphonique du ministère de l'économie. Et à ma grande surprise, Emmanuel Macron a donné son accord pour être l'invité d'honneur du club. Ça a été un peu en avant après pour le club.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Harold.
Bonjour Alec.
Comment tu vas ?
Eh bien écoute, je suis dans une forme olympique, plein de boulot, mais tout va bien.
Magnifique. Alors dans cet épisode, on va aller décrocher des médailles ensemble vu qu'on est en forme olympique et merci. Ouais. Merci en tout cas de m'accorder un petit peu de ton précieux temps pour faire cet épisode, cet échange ensemble. Harold, donc Harold Parizeau, président cofondateur, du Chinese Business Club. Tu es aussi entrepreneur, tu es aussi investisseur, tu as pas mal de cordes à ton arc et aujourd'hui on va pouvoir parler notamment du network, du réseau, du networking, du Chinese Business Club, entre autres, de ce business model que tu as su mettre en place, créer pour faire en sorte que ton club soit parmi les premiers, voire le plus grand club d'affaires en France. Aujourd'hui, tu es de plus en plus visible aussi sur LinkedIn, ce qui a attiré mon attention et ce qui a fait que je t'ai proposé cet épisode. Donc, c'est vraiment chouette de t'avoir ici, sachant que je fais partie de ceux qui comprennent la puissance du réseau, qui comprennent la puissance de ce type d'événement également. Moi-même, en organisant de temps en temps, avec parcimonie à gauche à droite, mais en n'ayant pas forcément un club à l'année comme tu peux l'avoir, et en mettant souvent en avant ce type d'initiative. Donc, c'est aussi l'occasion et l'opportunité pour celles et ceux qui nous écoutent de découvrir le Chinese Business Club. Donc, merci en tout cas pour ton temps. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Eh bien, avec plaisir. En tout cas, merci à toi pour l'invitation. Alors, donc, mon nom est Harold Parizeau. J'ai créé le Chinese Business Club il y a 10 ans à Paris, en démarrant de rien. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, quand je parlais de mon projet à quelques personnes autour de moi, tous me déconseillaient vivement de me lancer. Ce qui n'est pas très encourageant, évidemment. Et puis finalement, je l'ai quand même fait parce que j'y croyais. Enfin, réellement, je pensais que l'idée était bonne, malgré le fait que je ne parle pas chinois, que je n'ai jamais vécu en Chine et que je ne connaissais pas à cette époque-là de chinois. Donc le pari était ambitieux, comme on dit. Et les 3 premières années ont été compliquées, un peu galères, jusqu'au jour où j'ai contacté le standard téléphonique du ministère de l'économie en essayant de faire venir le ministre de l'économie, donc Emmanuel Macron, en invité d'honneur. J'ai eu une multitude d'interlocuteurs au sein du ministère jusqu'à arriver au cabinet du ministre, à qui j'ai proposé plusieurs dates. Et à ma grande surprise, Emmanuel Macron a donné son accord pour être l'invité d'honneur du club le 15 juin 2015. Donc je ne te cache pas que ça a été un peu en avant-après pour le club. Depuis 2015, le club marche bien. En gros, il y a une centaine de sociétés membres qui payent un membership annuel. et qui participe plus d'une douzaine d'événements par an à Paris sous forme de cocktails et de déjeuners d'affaires. Donc ce sont des réunions d'affaires avec systématiquement avec des invités d'honneur assez connus du grand public, soit des grands patrons du CAC 40, soit des entrepreneurs de licornes françaises qui viennent nous faire part de leur success story, puisqu'il y a quand même au bas mot 28 licornes françaises. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est des histoires entrepreneuriales incroyables. Jusqu'au Covid, le club était franco-chinois. Malheureusement, depuis 3 ans, il n'y a plus beaucoup de Chinois en Europe. Donc, je ne vais pas m'arrêter de travailler. Je ne vais pas arrêter le club non plus. Donc, je continue d'avancer. Et donc, je te confirme, mon cher Alec, que depuis 3 ans, depuis 2020, le Chinese Business Club est désormais franco-français à 90%. Alors, avant que tu me poses la question de savoir si je vais changer de nom, le nom du club, j'anticipe ta question en te répondant que non, je ne change pas le nom du club parce que déjà, c'est une marque que j'ai déposée et protégée il y a plus de 10 ans maintenant. C'est une marque qui est assez claire. Actuellement, en France, en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de China bashing. Je pense que tout ça évoluera dans les prochaines années. Les Chinois reviendront dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, j'en sais rien, mais ils finiront par revenir. Et je pense que ce serait une erreur stratégique de changer de nom, de changer de marque, parce qu'ils finiront par revenir encore plus nombreux qu'avant, avec plus de moyens, et puis la roue tourne. Et puis en plus, je vais te dire, je n'ai pas de concurrent sur ce créneau franco-chinois. Donc, je ne change pas de nom, même si désormais, j'internationalise le club, je cible de plus en plus les petites boîtes, les startups, les TPE, les PME, les entrepreneurs, etc. Enfin voilà, je suis désolé, hein, je te fais une réponse un peu longue, mais...
On est là pour ça. On est là pour ça, effectivement, et tu fais bien d'anticiper ma question, notamment, tu vois, lorsque j'ai découvert, moi, le club, et j'en ai parlé à certaines personnes qui ont pu participer à tes événements ou autres, tout de suite, je me suis dit, Chinese Business Club, pour moi, c'est un club chinois qui parle de business. Pourquoi on m'inviterait ici, ou pourquoi j'irais participer à un dîner, à un gala ou quoi qu'est-ce. Et c'est pour ça qu'avant notre entrevue enregistrée, je te disais, il faut que je te pose cette question parce qu'effectivement, j'imagine que beaucoup se font la même remarque que moi et tu fais bien justement de le notifier. On voit aujourd'hui, de par les personnalités qui sont présentes, de par les entrepreneurs qui participent, on n'est plus dans ce... On n'est plus dans ce créneau-là.
Et, je ne sais pas si tu avais eu le temps de regarder, mais je t'avais envoyé par mail la liste des présents participants au dernier déjeuner avec le PDG de L'Oréal et le déjeuner suivant avec le PDG de Michel-Édouard Leclerc.
Complètement.
Et tu pourras constater dans cette liste qu'effectivement, le listing est franco-français à 90%. Tu as des politiques, il y a des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, plein d'ambassadeurs de grands pays, des business angels, des investisseurs, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des dirigeants, beaucoup de patrons qui sont propriétaires de leur boîte, également des journalistes. À chaque déjeuner, tu vois, j'ai BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point, etc. Ça vaut de l'or, tu vois, ces journalistes, parce que les membres, moi, du club... ce sont que des sociétés qui sont membres de mon club, j'ai pas de particulier, c'est que des entreprises, mais les membres se retrouvent assez facilement avec des portraits, articles, citations, interviews, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est de la publicité gratuite pour les membres, tu vois, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc oui, je te confirme que le club est désormais franco-français à 90%, malgré le nom du club qui ne change pas.
Ouais, effectivement, tu fais bien de le mentionner, les membres se retrouvent avec la publicité gratuite, mais les médias, les journaux, eux, se retrouvent avec des sujets intéressants, et le fait est que j'imagine il y a un tri sélectif, parce qu'aujourd'hui, pour avoir 100 membres, des personnalités telles que tu les évoques, et 10 ans d'ancienneté, tu dois, j'imagine, faire un tri quand même assez sélectif et faire attention aux membres que tu acceptes ou pas.
Oui.
Au sein du club, et c'est ce qui fait justement qu'il y a cette synergie, cette valeur au sein même du club, et donc les journalistes aussi le savent, c'est que s'ils ont le tampon Chinese Business Club et qu'ils sont ici, qu'ils sont là dans la même pièce qu'eux, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est qu'ils font partie, ils ont respecté certains critères qui font qu'il y a de la valeur à en retirer.
Tu as tout à fait raison, Alec. Et d'ailleurs, je voulais rajouter que les nouveaux membres, en gros, enfin moi, ceux que je fais entrer, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, hein, on est quand même assez nombreux. Tu doutes bien que dans un club comme celui-ci, en physique, en présentiel, comme on dit, il peut y avoir 100, 120, 130 sociétés membres, mais il ne peut pas y en avoir 5000. Tu vois, ce n'est pas comme l'entrepreneur qui va lancer une application qui potentiellement est téléchargeable des milliers de fois ou des millions de fois. Moi, malheureusement, on est limité en capacité d'accueil. Et c'est pour ça que je privilégie évidemment des sociétés qui... alors peut-être pas feront rêver les autres parce que le mot est un peu fort, mais qui apporteront une valeur ajoutée aux autres membres et, ou qui intéresseront les autres membres, tu vois.
Complètement d'accord. Et autant aujourd'hui quand tu nous partages justement ton parcours, le club, les personnes qui ont participé, le tournant en 2015, voilà, quand tu nous partages ça, ça fait vraiment du sens et on se dit waouh, c'est beau ce qu'il a mis en place et franchement top. Mais en même temps, si on revient 10 ans en arrière, tu me dis notamment au démarrage de cette entrevue que bah, tout le monde te disait ou la plupart des gens te disaient ne le fais pas, te décourager à le faire, c'est une mauvaise idée, ça ne va pas marcher, etc. Quels étaient leurs contre-arguments et qu'est-ce qui fait que toi, tu y croyais dur comme fer à ce moment-là?
Alors oui, j'aime bien cette question parce que effectivement, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, tu mets en avant le succès du club au bout de 10 ans. Alors tu sais, 10 ans, c'est quand même long. Hein, ouais. Donc aujourd'hui, oui, c'est génial, c'est super. Tout le monde en parle, tout le monde va venir, 90% de fidélité au club, c'est-à-dire que j'ai 9 boîtes sur 10 qui renouvellent l'adhésion tous les ans, donc ouais, c'est cool, parce que pour moi, c'est un super taux de satisfaction, mais t'as raison.
C'est un excellent taux de satisfaction, c'est un excellent
taux. Ouais, franchement, ouais, bon, ça fait plaisir, évidemment. Après, t'as raison de souligner qu'il y a 10 ans, c'était évidemment pas la même ambiance. Il y a 10 ans, je lançais le truc, personne n'y croyait, et pour répondre à ta question, quand j'en parlais, les gens me disaient « Mais Harold, tu parles pas chinois, t'as jamais vécu en Chine, tu connais pas un seul chinois », ils avaient raison. Et moi, le seul truc, si tu veux, c'est que j'y croyais malgré tout, parce que j'ai appris à découvrir les Chinois, j'ai appris à les connaître. Ils sont 1,4 milliard, ils ont faim, ils ont envie de bosser, ils ont envie de gagner de l'argent, ils ont un vrai esprit entrepreneurial, ils sont bluffants. Un Chinois qui échoue dans un domaine, eh ben, il tourne la page et il va essayer dans un autre domaine. Enfin, tu vois, ils sont assez bluffants. Ils veulent rentrer dans une maison. Si la porte d'entrée est fermée, ben, ils font le tour. Ils essayent de voir si la porte derrière est ouverte. Si la porte de derrière est fermée, ben, ils essayent de voir si la fenêtre est ouverte. Enfin, c'est très imagé ce que je te dis, mais c'est vrai qu'en France, malheureusement, on attend souvent beaucoup du gouvernement, sans faire de politique. Hein. Moi, mon club est 100% business. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien chez les Chinois, c'est qu'ils sont de vrais entrepreneurs, des gros bosseurs. Et d'ailleurs, moi, les entrepreneurs chinois que j'ai rencontrés sont assez bluffants parce qu'en général, quand ils ne montent pas un business, mais deux business simultanément, enfin, ils sont assez bluffants. Bref, tout ça pour te dire que oui, les premières années étaient compliquées à tout point de vue. Déjà parce que je ne connaissais pas cette clientèle chinoise, que pour faire venir des invités d'honneur, quand tu crées un club, si tu veux avoir des invités d'honneur prestigieux, bah, s'il n'y a pas de track record, c'est un peu compliqué quand même. Voilà, donc c'est pour ça que dès le début, j'ai voulu avoir un positionnement plutôt haut de gamme, parce que des clubs en France, il y en a des milliers, que bah, je considère que si tu n'es pas premium et visible, bah, en gros, tu te retrouves noyé dans la masse. Donc moi, j'ai toujours tout fait pour sortir du lot et être visible et avoir un positionnement premium. Et le positionnement premium, il se joue avec l'invité d'honneur et avec les sociétés membres, donc en gros les participants dans la salle. Tu vois, c'est parce qu'avoir uniquement un invité d'honneur prestigieux et dans la salle des gens qui ne sont pas décideurs, pour moi, ce n'est pas un positionnement premium. Tu vois, le but, c'est que tous les paramètres soient réunis pour que ça soit premium haut de gamme.
Ouais, ouais, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, à ce propos, quel est ton modèle économique concrètement? Combien coûte l'adhésion annuelle? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent et qui s'additionnent de façon à pouvoir faire tourner ce club? Parce que finalement, ce club, ce n'est pas juste un club. C'est un club, certes, mais pour toi, c'est un modèle économique, c'est un business, c'est une entreprise. Pour que
tout à
ça
fait,
puisse
c'est ma société. Je te confirme que je ne fais que ça. J'ai aucune autre activité. Ouais. C'est un business qui, depuis 10 ans, m'occupe 5 à 6 jours par semaine, quand même. Donc bon, je ne m'ennuie pas.
Mais on sent que t'es passionné. On sent que t'es passionné. Donc
ah ben alors je te confirme, mon cher Alec, que j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. C'est un vrai plaisir d'organiser des événements où les gens sont contents de venir et surtout de revenir, où les gens sont contents de se rencontrer et de se revoir. Et puis voilà, puis après, ce qui est marrant, c'est que les gens, après, te sont un peu redevables aussi, tu vois, donc c'est cool. Quand tu mets deux personnes en relation, les deux sont contents.
Ouais.
Donc après, quand tu leur demandes quelque chose, a priori, ils ne te laissent pas tomber, tu vois, comme une vieille chaussette.
Ouais.
Mais pour répondre à ta question sur le business model, c'est assez simple. C'est une entreprise, évidemment, où les sociétés payent un membership. Donc, les adhésions annuelles démarrent à 9 500 € hors taxes par an et par société. Donc, c'est un prix qui est évidemment non négligeable. C'est, entre guillemets, une barrière tarifaire pour beaucoup de petites sociétés, j'en ai conscience. Le business model, c'est en gros une centaine de boîtes qui payent une adhésion qui démarre à 9 500 € hors taxes par an et par société. Ça représente à peu près les trois quarts des membres. Et un quart des membres le sont sous forme de partenariat avec des tarifs qui sont beaucoup plus costauds, qui montent même jusqu'à 75 000 € hors taxes par an et par société. Alors effectivement, les tarifs peuvent être évidemment très impressionnants, sauf que derrière, ces partenaires se retrouvent systématiquement avec plusieurs places à la table d'honneur, à tous les déjeuners, toute l'année. Ils peuvent même choisir, par exemple, si toi, Alex, étais partenaire du club, tu me dirais, Harold, je suis partenaire du club. Au prochain déjeuner, je suis donc à la table d'honneur. J'aimerais avoir à ma droite, par exemple, le PDG de L'Oréal à ma droite, à ma gauche, le PDG de Zadig et Voltaire ou Clarins, et puis en face de moi, Jacques Séguéla ou Laurent Dassault ou Jean-Pierre Raffarin ou Michel Alliomarie. Et moi, j'ai tout intérêt à faire en sorte que toute l'année, tu sois content de tes placements à la table d'honneur pour qu'à la fin de l'année, évidemment, tu fasses partie des 90% des sociétés qui renouvellent le membership, tu vois. Donc, les trois quarts en placement libre avec des adhésions à 9005 et un quart avec des partenariats entre 25 et 75K hors taxes. Donc, grosse différence de prix, j'en ai conscience, mais avec des services qui sont évidemment, qui valent de l'or. Faut pas se voiler la face.
De toute façon, c'est les contacts. C'est ça, et c'est une évidence. C'est une évidence que pour que tu aies 90% de taux de renouvellement sur des tarifs entre guillemets
aussi costauds,
aussi élevés, même si j'aime pas forcément dire que c'est élevé ou pire encore utiliser le terme cher parce que rien n'est cher.
Cher, ça dépend. S'il y a rien en retour,
exactement. Voilà, par rapport à la valeur délivrée, c'est sûr.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Je vais te dire, t'as le retour sur investissement, et puis tu as également le réseau, le carnet d'adresse, parce qu'il y a plein de gens que tu vas rencontrer au club qui sont des décideurs, avec lesquels, évidemment, je me doute bien que tu ne feras pas du business avec tout le monde, mais tu rencontres des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, des gens assez médiatisés, des journalistes, etc. Avec ces gens-là, tu ne feras pas de business, mais par contre, c'est des contacts qui valent de l'or.
Mm-hmm.
Peut-être que tu seras amené à les contacter dans les 12, 18 ou 24 mois, et là, tu les rappelleras en disant, tiens, au fait, on s'était rencontré au Chinese Business Club, etc., je me permets de vous appeler ou de vous solliciter pour ça et ça.
Ouais.
Et l'intérêt d'être en contact avec des décideurs, c'est un gain de temps colossal, et on sait que pour nous, entrepreneurs, le temps, c'est de l'argent.
Ouais, complètement.
Donc, évidemment.
Complètement.
Les gens que tu vas rencontrer, ça sera oui ou ça sera non, mais au moins, tu sauras à quoi t'en tenir.
Ouais. Non, mais complètement. Et je reviens sur un sujet, c'est que tu parlais tout à l'heure du fait que de plus en plus, donc, tu t'intéresses aussi au monde de la start-up, au business en ligne et j'en passe. Et moi, je suis en plein dedans, c'est-à-dire le monde du business en ligne, le monde de l'accompagnement, du coaching, de la formation, etc., de la prestation. Et tu sais, dans notre écosystème, il y a un terme qui est beaucoup utilisé, qui vient un peu des États-Unis, etc., pour qualifier en fait le type de club que tu as su créer. À un autre niveau, certes, en termes de qualité de participants, c'est-à-dire que toi, tu es sur une qualité de participant qui est assez extraordinaire, hors du commun, c'est ce qui fait aussi ton positionnement, c'est le terme mastermind. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai déjà aussi créé un mastermind, commercialisé un mastermind, donc des membres où on était entre 50 et 60 entrepreneurs, 60 entreprises qui payaient 25 000 € à l'année pour avoir accès à 4 rencontres, ça durait 2 à 3 jours chaque rencontre, et se retrouver dans un pays, dans un hôtel, dans un endroit avec ces 60 personnes pour avoir accès au cerveau, aux ressources, aux contacts, au carnet d'adresses et à la science des autres, je vois exactement ce que c'est d'une part, et je vois surtout la valeur que ça peut apporter. Moi-même ayant été membre de ce type de club et moi-même en ayant aussi organisé des masterminds. Donc, c'est super intéressant, mais T'as quand même...
Moi-même, j'en suis convaincu, Alec, hein, donc ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire.
C'est certain.
Évidemment que tu as raison.
C'est certain. Et justement, aujourd'hui, tu vois, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est une évidence. C'est-à-dire que, tu vois, à force d'avoir des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, qui martèlent sur les réseaux le fait que bah, l'importance du réseau, du networking, du carnet d'adresses, des contacts, des connaissances, etc., elle est juste dingue dans le business. Mais à l'époque, lorsque... Bah, tu démarres, ou même en 2015, 2017, 2018, bah, ce n'était pas aussi évident. Comment est-ce que tu faisais justement pour aller chercher tes premiers membres et notamment tes premiers gros tickets et réussir à les convaincre du fait d'avoir de la valeur au travers de ces mises en relation, de cette participation? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Alors, juste avant de répondre à ta question, Alex, je voulais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que tu viens de dire. Moi, je tiens à insister sur le fait que beaucoup de startups et d'entrepreneurs aujourd'hui ne réalisent pas l'importance du réseau. Moi, mon objectif au Challenge Business Club, c'est d'apporter mon réseau et le carnet d'adresse du club à des TPE, PME, start-up, etc. Il y a plein de petites boîtes aujourd'hui en France, notamment, qui cartonnent, qui ont pas mal de réseaux, qui font des très belles levées, mais qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas le carnet d'adresse. C'est pas du tout... Enfin, tu vois, c'est... Mmh. Et c'est là où je me dis que le club a une vraie valeur ajoutée, tu vois. Je suis bluffé de constater que beaucoup d'entrepreneurs ne sont membres d'aucun réseau d'affaires ou cercle d'influence, etc. Et je pense que c'est une erreur parce que, comme on le disait, avoir accès à des décideurs, c'est un énorme gain de temps. Pour répondre à ta question, c'était quoi déjà ta question, Alec ?
C'est comment est-ce que tu étais pris lorsque tu démarrais et que le niveau de conscience n'était pas le même qu'aujourd'hui pour aller chercher tes premiers gros tickets et les convaincre ?
Alors, très sincèrement, les 18 premiers mois quand j'ai créé le club, je ne gagnais pas d'argent et j'en ai même parlé parce qu'entre entrepreneurs, évidemment, on se consulte et j'en ai parlé à un copain entrepreneur qui a beaucoup d'avance sur moi à tout point de vue et je lui dis, écoute, mon club marche bien, les gens sont contents de venir, le seul truc, c'est que je ne gagne pas d'argent, la boîte ne gagne pas d'argent. Il me dit, mais comment tu fais aujourd'hui ? Je dis, bah voilà, en gros, les gens viennent, payent leur couvert 250€ TTC, ils passent un bon moment et ensuite ils repartent. Il me dit, Harold, comment veux-tu faire tourner une boîte en faisant payer des couverts 250€ TTC, sachant qu'en gros, tu as déjà 40€ qui partent en TVA et que sur les 200 et quelques euros qui restent, il y en a à peu près 175 qui partent pour le lieu de réception, pour le déjeuner, l'organisation, etc. Il me dit, comment veux-tu gagner, faire tourner une boîte avec 30€ ou 40€ de marge par personne, sachant que tu fais des déjeuners où il y a 200 personnes. C'est impossible. Et il avait raison. Je dis, mais alors, c'est OK, mais super, mais c'est quoi la solution ? Il me dit, Harold, il y a une seule solution, c'est rendre le membership, l'adhésion, obligatoire. Et je dis, mais attends, mais si je fais ça, il y en a les trois quarts qui vont me dire non merci, au revoir. Il me dit, ouais, t'as raison, les trois quarts vont te dire non merci, au revoir. Et inversement, un quart vont te dire OK. Et écoute, effectivement, Alec, il avait raison. Beaucoup m'ont dit OK, on ne suit pas. Et un quart m'ont dit bah, OK, pas de problème, on adhère, envoyez-nous la facture. Et du jour au lendemain, donc ça, je te parle de ça, ça date de. En gros, 2013-2014, c'était avant l'avenue de Emmanuel Macron. Mais en gros, sur 2013-2014-2015, j'ai signé les premiers membres du club en rendant l'adhésion obligatoire. Parce que sinon, les gens, ils viennent, ils payent leur couvert, ils repartent. Mais moi, je ne gagne rien au passage, tu vois ce que je veux dire. Si le business model n'était pas viable, n'était pas rentable. C'est pas, enfin, tu vois, je ne pouvais pas faire tourner une boîte comme ça. Et donc, j'ai rendu l'adhésion obligatoire. Et tu te doutes bien que s'ils payent une adhésion obligatoire, bah, c'est qu'a priori, le club les intéresse, les contacts les intéressent, le réseau les intéresse, etc.
Ouais. Et y a un point aussi qui est intéressant à comprendre, c'est que tu dis qu'il y a 90% de taux de satisfaction et donc taux de renouvellement. Mais finalement, quand tu restes dans un club et que tu payes autant, c'est que tu veux effectivement le monétiser, faire du business, etc. Le fait de renouveler...
La seule chose qui intéresse les chefs d'entreprise, c'est le retour sur investissement.
Ouais.
Et c'est normal, et c'est logique. Enfin, tu vois, on est quand même sur des gammes de prix qui ne sont quand même pas neutres.
Ouais.
Donc, normal. Enfin, franchement, ça ne me choque pas, quoi.
OK. Et du coup... Moi, la première des choses que je me dis, et c'est typiquement aussi une des objections entre guillemets que certains de mes clients avaient pour rester plus longtemps sur des masterminds ou des modèles similaires, c'est oui, mais dans quelle mesure tu renouvelles les membres de façon à ce que je puisse à chaque fois, dans ton cas par exemple, c'est 10 ou 15% de nouveaux membres chaque année, aller chercher du business. Est-ce que tu réfléchis en amont, ok, lui je vais l'accepter, ok, non, lui je ne vais pas l'accepter? Ou est-ce que vraiment tu laisses la synergie de groupe faire le travail et puis tu te dis même qu'il y a des gens qui vont être à l'extérieur du club mais qui vont être amenés à l'intérieur par d'autres événements ou par tout simplement la mise en relation globale?
Il faut les deux, Alec, parce que le problème, c'est que si toute l'année tu vois uniquement les mêmes personnes, au bout d'un an ou deux, tu te lasses. Donc il faut effectivement des nouvelles têtes, entre guillemets, régulièrement. À chaque déjeuner, il y a... des entreprises qui ne sont pas encore membres et qui peuvent venir tester le club une fois à l'occasion d'un déjeuner. Et à l'issue de ce déjeuner test, où ils ont uniquement payé leur couvert, libre à leur société d'adhérer au club ou pas. Donc déjà, à chaque déjeuner, il y a des prospects potentiels, des membres potentiels qui viennent tester le club. Ensuite de ça, en fonction de l'invité d'honneur, il y a différents journalistes qui viennent. En fonction des agendas des certaines personnalités ou autres politiques ou autres ambassadeurs, etc., ça tourne. Et puis, le point le plus important, c'est que les membres qui aiment le club, et ça fait évidemment plaisir, sont de véritables ambassadeurs du réseau. Et donc, très souvent, ils en parlent autour d'eux, à d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise, d'autres dirigeants. Résultat, ils ont envie de venir tester le club. Et donc voilà, en fait, moi, la plupart des nouveaux membres qui rejoignent le Challenge Business Club se fait par l'intermédiaire de membres déjà en place.
Mmh, ouais, je vois. C'est super intéressant. Et à l'intérieur, tu as mis en place un système d'affiliation, d'ambassadeur, de rémunération, d'apport d'affaires où les gens juste te recommandent parce qu'ils adorent ça?
Non, il n'y a pas d'apport d'affaires ou il n'y a pas de rémunération ou quoi que ce soit. Non, tu sais, un chef d'entreprise qui est content, il en parle autour de lui et ça se fait naturellement. Voilà, mais c'est ça qui est sympa. Les gens veulent joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Tu viens passer un bon moment. Tout est fait pour les rencontres et repartir avec un maximum de contacts. On est sur des horaires de réunions, de déjeuner assez larges. Concrètement, les membres arrive à 11h30, ce qui est évidemment très tôt pour un déjeuner. N'empêche que tu as un cocktail networking debout, où les gens sont extrêmement mobiles et accessibles. Cocktail networking debout pendant 1h, 1h15, donc de 11h30 à 12h45. Les gens échangent, se rencontrent, carte de visite, etc. Ensuite, on passe à table à 12h45. Emplacement libre pour tout le monde, sauf les fameux partenaires dont on parlait tout à l'heure, qui sont à la table d'honneur et qui peuvent même choisir leurs voisins de droite, de gauche, d'en face, etc. Déjeuner entre 13 et 14. Et ensuite, à 14h, café networking une nouvelle fois pendant une heure, de 14h à 15h, pour que tous les participants, les invités, les membres, etc., continuent d'échanger, de se rencontrer. Donc vraiment, l'idée, c'est toi, en tant que membre du club, c'est de repartir avec un max de contacts. Évidemment que tu ne feras pas du business avec tous les gens que tu as rencontrés ou toutes les cartes de visite que tu as récupérées. N'empêche que c'est vraiment que du top niveau. Voilà, enfin, tu vois, c'est quand même très agréable. Pour te prendre un exemple, là, tu vois, au prochain déjeuner du club. Alors, moi, j'aime bien avoir des profils un peu atypiques parmi les invités. Je fais venir des sportifs professionnels, je fais venir des gens assez médiatisés. Là, tu vois, par exemple, sur le prochain déjeuner, il y a le patron du Crayon qui vient, qui est membre, le patron du Fouquet's qui est membre, qui vient, le patron du Royal Monceau qui est membre, qui vient, il y a le patron de Razéo, il y a l'ancienne ministre Anne-Marie Hydrac, il y a Gaëtan Mélin de BFM TV qui vient, il y a le général Réti, qui est le patron du GIGN qui vient, il y a le commissaire Riondet, qui est le patron de la BRI qui vient, Guillaume Sarkozy, qui est le grand frère de Nicolas, qui vient, Roxane Barza, évidemment, parce que c'est l'invité d'honneur. Enfin, tu vois, on est quand même sur des... C'est assez éclectique, quand même, comme liste de participants.
Mm.
Et c'est ça qui est magique, c'est que... tu vois, enfin, c'est... Pour moi, la force d'un réseau, c'est sa diversité.
Complètement.
Et il faut voir ce réseau comme un accélérateur de business.
Ouais, ouais. Non, mais complètement. Et justement, les différents participants, là, notamment ceux que tu cites, ou les personnes que tu pourrais choisir à ta gauche, à ta droite, en face, sur cette table d'honneur, est-ce qu'ils sont eux-mêmes membres ou est-ce que tu as un budget pour chaque réunion où tu vas rémunérer certains types d'invités pour avoir leur présence parce que ça aura un impact et une sorte d'influence positive sur justement le club?
Ouais. Alors, je te confirme, mon cher Alec, que jamais personne n'a été payé en 10 ans pour venir au club. Jamais.
Ah, c'est excellent. Voilà. Ça dénote justement l'intérêt même pour justement
que
des personnes.
Que ça soit des gens dans la salle ou des gens sur scène en tant qu'invité d'honneur. Jamais un invité d'honneur n'a été payé.
Ouais.
De toute façon, je n'aurais pas les budgets. Et puis, et puis, je vais te dire, je pense que les invités d'honneur ont un vrai intérêt à venir dans le sens où j'ai quand même que des décideurs dans la salle, que des patrons, beaucoup de lobbyistes, beaucoup de journalistes. C'est quand même une super tribune. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est en termes de visibilité et notoriété pour l'invité d'honneur, c'est un bon coup de com. Le temps d'un déjeuner, donc c'est pas très contraignant non plus. Après, les gens, les personnalités qui sont à la table d'honneur, bah, il y a les partenaires dont on a parlé qui effectivement payent pour être à la table d'honneur. Et à côté de ça, il y a des personnalités, je sais pas moi, publiques ou politiques, qui sont invitées à la table d'honneur. Les anciens premiers ministres ne payent pas, les anciens ministres ne payent pas, beaucoup de journalistes viennent au club et ne payent pas. Mais après, si je les invite, c'est parce qu'il y a un intérêt pour les membres.
Ouais, ça
et
fait
pour
partie
le club.
Du package. Ça fait partie du package et la valeur que tu apportes effectivement à tes membres. Donc c'est tout à fait.
Quand tu as la rédactrice en chef du Figaro qui vient et qui fait un papier, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Évidemment que c'est dans mon intérêt de l'inviter. Tu te doutes bien que les journalistes, ils ne vont pas payer 9 500 € d'adhésion.
Complètement. Non, là-dessus,
anciens premiers ministres, ils ne payent pas non plus pour venir.
Ouais. Là-dessus, on est alignés.
Après, ce n'est pas une critique, mais c'est un constat. Enfin, voilà, il faut être réaliste.
Ouais, non, ça fait totalement du sens. Ça fait totalement du sens. Un autre sujet, du coup, c'est ça peut paraître un petit peu contre-intuitif comme question, mais tu disais tout à l'heure que tu passes donc 5 à 6 jours par semaine ton temps depuis 10 ans sur ce club. Et pourtant, tu es passionné par ce que tu fais, tu es aussi passionné d'entrepreneuriat parce que voilà, dans le nom même de ton club, il y a le mot business. La plupart des personnes qui sont présentes sont des entrepreneurs ou ont un lien direct avec de la création de valeur et l'entrepreneuriat. Et un des points clés justement dans l'entrepreneuriat à un certain niveau, c'est aussi la délégation, la structuration et la diversification. Et ma question du coup, c'est en 10 ans, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas forcément mis ou voulu mettre des systèmes en place pour te sortir un maximum de la phase opérationnelle de la gestion du club pour pouvoir peut-être développer d'autres business units ou alors d'autres types de business en parallèle du club tout en lui permettant de continuer à avoir ce succès, à être pérennisé, à avoir cette visibilité ou selon toi, ce ne serait pas forcément possible sans toi parce que c'est toi qui apportes justement en grande partie ce qui fait le succès du Chinese Business Club.
Ouais, alors après, je ne suis pas ayant passable, mais pour répondre à ta question, je te confirme que je n'ai ni employé, ni salarié, ni stagiaire, ni assistant, etc.
C'est toi qui gères tout de A à Z, incroyable.
Ouais. Oui, après, alors oui et non, parce que moi, je fais bosser plein de gens qui sont freelance,
ouais,
qui
des prestataires.
Qui sont, évidemment.
Ouais.
Et je vais te dire, ils bossent très bien, ils sont réactifs, ils sont motivés. Enfin voilà, c'est vrai que je n'ai jamais été très encouragé à recruter quelqu'un en CDI, je pourrais, mais. Enfin, tu vois, au mois de mai, il y a quand même beaucoup de ponts, de viaducs. En juillet, août, il n'y a personne travaille. Il y a 11 jours fériés par an, ce qui est, en France, ce qui est énorme. Il y a 15 jours de vacances scolaires à la Toussaint, 15 jours de vacances scolaires à Noël, en février, à Pâques. Bon, tu mets tout ça bout à bout, tu vois, ça incite pas beaucoup à recruter en CDI, sans compter les jours où il y a des grèves ou des manifs ou pas de transport, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, moi, je ne suis pas hyper motivé pour recruter. Après, ça ne m'empêche pas de faire travailler plein de freelances et tout le monde est très content. Et voilà, moi, je suis passionné par cette aventure entrepreneuriale. Ce bébé, je l'ai créé, il y a, comme je te l'ai dit, il y a 10 ans en partant de zéro. J'étais un peu le seul à y croire une nouvelle fois. Aujourd'hui, ça marche bien. Aujourd'hui, on en parle, ça marche, c'est super et tout. Mais c'est vrai que voilà, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a eu quand même 10 ans, comme son nom l'indique. Mais voilà. Après, moi, je suis passionné par ce que je fais, donc ça m'a... Je vais te dire, quand tu aimes ce que tu fais, t'as pas l'impression de travailler beaucoup. Oui, je travaille beaucoup. Après, mon métier n'est pas spécialement compliqué. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais en soi, mon business n'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 15 pour gérer le club. Le plus difficile, c'était au début. Aujourd'hui, j'essaye d'innover en permanence, j'essaye d'avoir des invités d'honneur toujours plus prestigieux, toujours dans, en lien avec l'actualité, etc. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est, mon business n'est pas compliqué. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et puis, évidemment, une bonne organisation, parce que ça brasse quand même beaucoup de monde. Donc, j'ai intérêt, évidemment, à être bien organisé. Mais bon, après, ça, c'est de la logique et du bon sens.
Complètement, complètement. Et justement, je me pose la question. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est combien de réunions par année? 12, hein, c'est ça?
Plus d'une douzaine de réunions par an, sous forme de cocktails et de déjeuner. Alors, en gros, alors, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on est à peu près à 14 ou 15 réunions par an, sachant qu'au mois d'août, il n'y a rien, hein, je ne te cache pas. Là, tu vois, on a fait récemment 2 cocktails pour les membres, un cocktail au Phuket, Champs-Élysées, et un cocktail chez Tiffany, qui est membre également du club Tiffany Champs-Élysées, groupe LVMH. Au mois de mai, on organise une nouvelle fois 2 cocktails pour les membres, chez Orlan, avenue Victor Hugo, et au 31 mai, à l'hôtel Le Crillon, place de la Concorde, qui est également membre du club. Les membres aiment bien ce genre de petit cocktail un peu informel, le soir, sous forme d'happy hour, entre 18h et 21h. On se retrouve en petit comité, on est 50, 60, enfin tu vois, tous les membres ne viennent pas. Mais les membres aiment bien parce qu'ils font tous du business entre eux, ils apprennent à mieux se connaître. Et voilà. Et en fait, c'est des formats qui sont différents, mais au final très complémentaires, des grands déjeuners où il y a 200 couverts, où il y a des personnalités, des politiques, des business angels, des investisseurs, des journalistes, etc. Tu vois, donc c'est 2 formats différents et complémentaires. Mais oui, pour répondre à ta question, on est à largement plus d'une douzaine d'événements par an à Paris.
D'accord, ok. Et au départ, revenons justement au démarrage, parce que tu disais que le démarrage, c'était le plus compliqué. Est-ce que tu peux revenir sur l'anecdote, la phase où justement tu as réussi à avoir Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie et qui a du coup littéralement créé un avant-après ton club? Parce que on le sait plus ou moins tous, parfois il suffit d'un événement ou une personnalité connue ou une personne influente pour justement faire exploser un business quel qu'il soit. Ça fonctionne dans toutes les industries et dans ton cas, cet événement, puis de cet événement, j'imagine, a découlé de nombreuses opportunités de manière directe ou indirecte, et puis ça a créé un effet domino plutôt aidant que limitant. Mais comment on fait quand on démarre et qu'on est plein de bonne volonté, plein d'ambition, ça fait 18 mois qu'on développe son club, mais on ne gagne pas forcément d'argent, on se dit je vais changer mon modèle, je veux améliorer les choses et je veux un invité de marque, un invité d'honneur pour démarrer, mais à ce moment-là, ben, tu n'as peut-être pas forcément la visibilité, la notoriété et la légitimité que tu as aujourd'hui. Comment tu t'y es pris? Parce que ça peut être vraiment une belle leçon d'audace d'une part, d'oser, mais aussi de networking pour les entrepreneurs qui nous écoutent.
Alors oui, tu as raison, il y a toujours un avant-après. Moi, en l'occurrence, c'était le ministre de l'économie que je ne connaissais absolument pas. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai contacté le standard du ministère. Et puis ensuite, j'ai remonté les échelons un à un jusqu'à obtenir une réponse positive. J'y croyais pas d'ailleurs à ce moment-là, mais bon, jusqu'à ce qu'ils viennent, j'y croyais pas beaucoup de toi, moi. Après, c'est sûr qu'il faut être motivé, il faut être très motivé. C'est difficile, c'est long, ça prend du temps. Et surtout, il faut rien lâcher. Je vais te citer 2 exemples récents. Le premier, c'est une petite start-up qui s'appelle Toboro, dans laquelle j'ai investi en pré-seed. Les 2 filles qui sont associées à l'origine de cette start-up m'ont contacté, m'ont présenté leur projet. J'y croyais, réellement j'y croyais. Enfin, j'y crois toujours d'ailleurs. Et donc, résultat, j'ai pris un petit ticket et aujourd'hui, je les accompagne au quotidien, voilà, en ouvrant mon réseau et mon carnet d'adresses. Et je pense que ça leur est évidemment utile. Deuxième exemple qui est beaucoup plus récent, c'est Ray Budd, le patron de Papépi. Tu sais, il, est, il était passé dans l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6. Il m'a contacté via LinkedIn. Comme quoi c'est vraiment pour le boulot, c'est un super réseau. L'intérêt de LinkedIn, Alex, c'est qu'on a accès à qui on veut. Donc franchement, ça coûte pas grand chose, ça coûte même rien d'envoyer un message. Au pire, t'as pas de réponse, et dans le meilleur des cas, bah, t'as une réponse, tu vois. Donc LinkedIn, incontournable, quel que soit son business. Bref, tout ça pour revenir sur Ray Budd de Papépi. Il m'a contacté, etc. Et il se trouve qu'au prochain déjeuner du club, il aura un petit stand Papépi et tout. Lui, en termes d'entrepreneuriat, il est bluffant. Franchement, je suis admiratif. Il y va au culot et ça marche, mais il y a une telle motivation et une telle niaque. Franchement, respect, et je vais te dire, il n'y a que comme ça que ça marche, malheureusement. Il faut être motivé, il faut y croire, sinon, sinon ça ne décolle pas. Vraiment.
Ouais. Et justement, on sent... On sent, quand on t'écoute, la passion, mais aussi la motivation. Tu parles de la sienne, mais je peux mettre en exergue, en évidence aussi la tienne. D'où ça devient cette énergie, cette motivation, cette volonté, en fait, de rendre service, de connecter des gens, d'aider les gens à se créer des opportunités. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi, tu n'as pas juste un business, c'est que tu dédies ta vie, ton existence, tes 10 dernières années à aider des entrepreneurs à accélérer, faciliter, simplifier leur quotidien d'entrepreneur, leurs interactions entre les autres et accélérer aussi leur projet, augmenter leur probabilité de réussite tout en passant un bon moment. Donc, eux passent un bon moment, toi, tu passes un bon moment. D'où ça devient cette volonté, cette énergie, cette motivation ?
Je ne sais pas quoi te répondre, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est évidemment pas désagréable de se sentir utile.
Ouais.
Enfin, tu vois, il y a une vraie satisfaction à faire plaisir, à rendre service, et puis voilà. Puis après, je suis pas bénévole non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est un business qui est lucratif, qui marche. Les gens sont contents de venir, de revenir. Ils renouvellent, toutes les sociétés renouvellent tous les ans. Donc, ça fait plaisir de se sentir utile. Et puis, je me dis que ça fait plaisir également d'avoir créé quelque chose qui perdurera dans le temps. Objectivement, le jour où je ne serai plus là, je pense, j'espère que le Challenge Business Club continuera d'exister. Et donc, ça fait évidemment plaisir de créer quelque chose qui, a priori, durera dans le temps.
Ouais, la tu marque, ouais. La marque, effectivement, l'event, le fonds de commerce, le réseau, les membres ont de la valeur et effectivement tout est conçu pour que ça reste. On parle de beaucoup de choses positives depuis le début de notre échange. Tu disais au début que les 18 premiers mois ont été compliqués, tu perdais de l'argent, etc. Est-ce qu'à un moment donné, que ce soit au départ ou même sur ces 10 dernières années, tu as remis en question le modèle et tu t'es dit peut-être que je fais fausse route, je devrais peut-être arrêter le Chinese Business
Plein de fois. Plein de fois.
Intéressant, intéressant. Si tu peux nous en dire plus à ce sujet.
Plein de fois. Je vais te dire, les trois premières années, ça a été compliqué. Donc, si tu veux, j'y croyais, mais j'étais un peu le seul à y croire. Et plein de fois, on me disait, mais Harold, ton truc, tu vois bien que ça ne marche pas, change avant que ça soit trop tard. Non, c'était compliqué. Je vais te dire, même financièrement, c'était dur. Ça m'est arrivé plusieurs fois de sauter des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement, tu vois. Donc, c'est quand même pas très agréable, c'est pas très glorieux. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc, évidemment, que tu t'en vantes pas, mais... ouais, les trois premières années ont été difficiles parce que j'arrivais pas à avoir les invités d'honneur que je voulais, parce que les boîtes, ils voulaient bien venir, mais ils voulaient pas adhérer. Donc, en gros, ils voulaient pas payer. Ils voulaient venir sans payer, super. Et puis, financièrement, c'était un peu compliqué. Donc, évidemment que tu te remets en doute. Évidemment que tu dis, qu'est-ce que je fais là? Je fonce droit dans le mur. Surtout que moi, j'ai reçu ni don, ni héritage, ni donation, ni quoi que ce soit. Hein. Autant quand tu as une famille blindée, bon, bah, tu te dis, au pire des cas, il y aura toujours papa-maman. Moi, mes parents, ils sont très sympas. Ils m'ont donné, je pense, une bonne éducation. Mais à part ça, après, c'est pas un reproche. Hein, mais après, j'ai rien eu d'autre, tu vois. Donc, bon, ouais, bah, je te dis réellement, la vie d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Rien n'est facile. Mais après, avec de la niaque, de la motivation et tout. Et puis, je vais te dire, quand ça marche, Alec, quelle joie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est hyper stimulant de bosser sur un truc qui marche. Évidemment que ça ne marche pas dès les premières années. C'est normal. Sinon, tout le monde serait entrepreneur.
Ouais.
Évidemment que c'est difficile. Après, il y a des gens pour lesquels c'est plus ou moins difficile, plus ou moins long. Moi, je te dis, hein, ça a mis au moins 3 ans. Alors, il y en a qui me disent que c'est rapide, d'autres qui disent que c'est long. Je ne sais pas, mais enfin, 3 ans, tu es sans passer quand même. Hein.
Ouais, ouais, complètement. Ben là, on est d'accord. Et justement, il y a un point intéressant, c'est que si on récapitule sur les 3 premières années, donc tu développes progressivement la chose. Tu faisais payer par dîner, par repas, 250 euros, il y avait très peu de marge, etc.
Mais il n'y avait quasiment pas de marge, parce que l'argent qui rentrait d'un côté ressortait de l'autre, quasiment à peu de choses près.
Exactement.
Donc, tu ne fais pas tourner une boîte avec 30 euros par société. C'est ridicule.
Mais j'ai deux questions liées à ça. La première, c'est qu'est-ce qui fait que tu as mis, entre guillemets, 3 ans à t'en rendre compte? Alors que, bah, voilà, tu as la tête sur les épaules.
Alors, j'ai mis un peu moins. Hein. Okay. Non, j'ai mis un peu moins. Mais si tu veux, le temps que ça prenne, le temps d'envoyer les factures, d'être payé, le temps qu'il y en ait suffisamment pour que ça soit rentable, etc. En gros, c'est pour ça que je te dis qu'il y a eu un avant après 3 ans. Parce qu'au bout de 3 ans, il commençait à y avoir un petit nombre de sociétés membres qui payaient un membership annuel. Okay. Parce que les premières sociétés membres commençaient à renouveler leur adhésion. Et là, je me suis dit, waouh, ils renouvellent.
Ça fonctionne.
Bah non, mais tu vois, c'est ouais. Tout bon, mais ça veut dire que ça leur plaît.
Ouais, ouais, ouais.
Et pour moi, mais moi, les premières sociétés qui m'ont dit à la fin de l'année, ah ben on renouvelle, c'était magique. Des premières sociétés membres qui renouvellent l'adhésion à la fin de l'année, plus le ministre de l'économie qui vient, ah bah ça y est, là, c'est la fête. C'est le début de l'apothéose. Ouais, non, mais enfin ouais. Tu vois, j'exagère un peu, mais. Franchement, j'étais tellement content. Et quand tu es content comme ça, mais tu es motivé, tu t'arrêtes pas, tu avances. Si tu n'avances pas, de toute façon, tu recules. Hein. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Il faut en permanence avancer, sinon on recule. Voilà.
Est-ce que tu penses que si tu avais démarré directement avec l'offre à 9000 euros d'adhésion annuelle, ça aurait aussi bien marché et le Chase Business Club aurait eu l'histoire qu'il a
eu. Non, je me serais planté, Alex, c'est sûr. Tu sais pourquoi je me serais planté? Parce que, de toute façon, déjà, le coût de l'adhésion obligatoire dès le premier jour, j'y avais pas pensé. C'est un de mes copains entrepreneurs qui me l'a soufflé. Donc déjà, j'y avais pas pensé tout seul. Et deuxièmement, le fait que les gens aient envie de revenir à chaque déj prouve bien que ça leur plaisait et que donc, tu vois, il y avait une opportunité à saisir.
Ouais.
Après, c'était à moi de le monétiser. Je ne savais pas comment. Alors après, j'ai mis en place l'adhésion obligatoire. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est bien dans un premier temps d'avoir organisé plusieurs déjeuners d'affaires, plusieurs réunions où les gens venaient, se rencontraient, ils se disaient, bah, tiens, c'est intéressant, il y a un tel. La preuve, c'est qu'ensuite, ils revenaient sur les déjeuners suivants. Donc, tu vois ce que je veux dire, le fait qu'ils reviennent, c'est qu'a priori, ça leur a plu. Si ça ne te plaît pas, tu n'y retournes pas, tu vois. Si ça te plaît, tu as envie d'y retourner, logique. Mais au final, je pense que le timing est bon parce qu'ils sont venus plusieurs fois. Et puis, à la fin, je leur ai dit, maintenant, l'adhésion obligatoire. Et comme je te disais tout à l'heure, et oui, les 3/4 m'ont dit, j'ai pas d'argent. Donc, ils sont parvenus, ok. Et n'empêche que les 3/4 ont dit non et 1/4 a dit oui.
Ouais, ouais.
Il est comme ça le démarrage. Hein. Enfin, tu vois, c'est très simple. Mais au final, je me dis que, je vais te dire, les sociétés vont pas dépenser 9 500 euros pour un truc qui vient de se créer, où il y a pas d'historique, où il y a pas de track record, où il y a pas de référence, où il y a pas de.
Il y a pas de membres. Il y a pas de membres spécifiques.
Où il y a pas de membres. Alors qu'ils viennent pour ça. Jamais entendu parler dans la presse.
Complètement. Alors là, d'accord.
Aujourd'hui, le club a quand même une belle notoriété. Dans les médias, en ligne, etc. Tu vois, donc ça prend du temps tout ça aussi, hein, réellement.
Ouais, c'est bien, ça prend du temps. C'est un beau message aussi qu'on peut transmettre à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, où tout va vite et les gens veulent des résultats quasi instantanés.
Ouais, bah ça, moi, j'y crois pas et ça n'existe pas, hein, réellement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, faut pas rêver. Hein.
Ouais, non,
faut pas rêver.
Les choses prennent du temps, effectivement. Un autre point, justement, c'est au niveau du networking pur et dur. Mais tu sais, j'ai beaucoup de gens qui, lorsque je les croise à des séminaires, des événements où j'interviens, ou alors lorsqu'on organisait des séminaires avant le Covid, on organisait beaucoup de séminaires physiques à Paris, etc., ou ailleurs. Ils me disaient, voilà, c'est quoi tes conseils, tes astuces pour networker ? Parce que moi, j'ose pas, je vois quelqu'un dans la pièce qui m'impressionne, qui m'intéresse ou à qui j'ai envie d'échanger, mais j'ose pas parce que je me sens inférieur, parce que je n'ai pas envie de le déranger, parce que il va pas m'accorder de l'intérêt, etc. Et ça, c'est une question que j'ai reçue, mais d'innombrables fois. Quelles sont déjà, quelle est ta réponse que tu pourrais partager à quelqu'un qui te posait cette question, et quels sont tes différents conseils pour justement faire un bon networking et tirer pleinement profit d'un événement quel qu'il soit, notamment certaines personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, il y aura les liens du Chinese Business Club et de ton LinkedIn sous l'épisode pour ceux qui veulent avoir plus d'informations et peut-être participer à un de ces dîners ou même rejoindre
déjeuner,
le club.
Déjeuner,
ou même rejoindre le club. Et typiquement, ça pourrait être des bons insights pour tirer profit et pleinement profiter de cette opportunité qu'ils auront en participant à un déjeuner.
Ouais, bien sûr. Après, je vais te dire, dire qu'on se sent inférieur à quelqu'un d'autre, je trouve ça un peu dommage. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même expérience. Et je vais te dire, si c'était le cas, dans ce cas-là, moi, je me sentirais inférieur à tous les invités d'honneur et toutes les personnalités que je reçois au club. Donc, je pense pas. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Il faut être réaliste. Et quand on rencontre quelqu'un d'important, comme tu le dis, eh ben, il faut essayer de l'intéresser d'une façon ou d'une autre, d'essayer de lui apprendre quelque chose, de lui faire plaisir. Tu vois, je sais pas, mais on est tous complémentaires, évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Il faut dire « j'ose pas y aller, j'y vais pas », bah, c'est sûr que si tu vas pas et que si tu n'oses rien, il se passera rien. Je vais te dire, seuls les entrepreneurs qui essayent et qui prennent des risques, bah, il se passe quelque chose. Alors après, ça marche pas, mais au moins, tu auras essayé et puis surtout, tu n'auras pas de regrets. Donc, c'est hyper important d'essayer, d'oser. Au pire, il se passera rien. Et puis, dans le meilleur des cas, ça marchera. Il faut essayer, il faut oser. Il faut prendre sur soi, et évidemment que on stresse un peu en croisant un tel ou un tel, ou un grand patron, ou un grand chef d'entreprise, ou quelqu'un de connu, etc. Ces gens-là sont habitués à être sollicités, vous ne leur ferez pas peur, et donc il ne faut pas hésiter à aller les voir gentiment, en essayant de les déranger le moins possible, évidemment. Mais voilà, pour ça, il faut avoir des cartes de visite, il faut avoir un pitch préparé à l'avance. Il faut que vous puissiez vous présenter, il faut que vous sachiez vous présenter en moins de 15 secondes. Et tu t'aperçois, Alec, que quand tu demandes à quelqu'un de se présenter en moins de 15 secondes, beaucoup de gens ne savent pas le faire. Mais pourtant, on appelle ça c'est quoi, c'est pas les pitch elevator,
ou je Elevator crois, non, c'est pas pitch, ça. Exactement.
Elevator pitch, voilà. Ouais, mais c'est hyper important. Parce que tu te doutes bien que tu ne peux pas commencer à raconter ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne sait pas d'où tu viens, etc. Et puis, il n'a pas le temps, surtout. Enfin, tu vois, on parle de gens qui sont extrêmement sollicités, donc il faut être très clair, rapide, court, enfin, tu vois, efficace. Aller à l'essentiel.
Complètement d'accord.
Sans tourner autour du pot.
Ouais, et je rebondis sur un truc, c'est cette croyance de « je suis inférieur, je ne suis pas assez », etc. C'est qu'une croyance et ce n'est pas la vérité. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un professionnel du networking. Ça fait 10 ans que tu fais ça et tu as rencontré, j'imagine, des centaines, des milliers de personnes dans le cadre de networking. Donc,
et ils avaient tous des postes plus importants que moi, ils gagnaient plus que moi, ils étaient plus connus que moi. Et ben, heureusement que j'ai osé les voir, sinon mon club il serait inconnu aujourd'hui. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Alors je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais... Il faut oser, il faut prendre sur soi, il faut avancer et surtout pas se dire ah « ben, il va me dire non ». Parce que alors, dans ce cas-là, ça c'est sûr que si tu n'essayes pas, il ne se passera rien et donc ça équivaut à un non.
Complètement d'accord. Complètement d'accord.
On ne peut être qu'agréablement surpris au final.
Ouais. Et un autre sujet aussi, c'est comment est-ce que toi tu t'y es pris pour avoir une telle qualité de membre et d'intervenant dans ton club? Donc, tu as donné quelques éléments de réponse, mais je veux dire, la liste est extrêmement longue, et à chaque fois que tu évoques un nom d'une société ou un nom des membres, on se rend compte à quel point c'est qualitatif. Comment concrètement tu t'y es pris pour justement avoir une si belle line-up?
Alors, la réponse est très claire. Dès le premier jour, mon cher Alec, dès le premier jour du club, il y a 10 ans, je me suis dit, je veux avoir le positionnement le plus premium possible, le plus haut de gamme possible. Parce que je considère, alors évidemment, c'était plus long et plus dur à mettre en place, mais je considère que c'est plus facile de baisser en gamme qu'inversement monter en gamme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en l'occurrence, j'ai toujours voulu garder ce positionnement premium pour rester visible, pour sortir du lot et pas être noyé dans la masse d'innombrables clubs partout en France, en province, à Paris, etc., des milliers de clubs, d'associations, etc. Dès le début, j'ai voulu avoir le positionnement le plus premium possible, et dès que je voyais qu'il y avait des entreprises qui n'étaient pas dans la cible ou qui n'apporteraient pas une valeur ajoutée pour les autres membres, bah je il y avait pas d'intérêt pour le club, tu vois. Donc aujourd'hui au club, tu n'as que des décideurs, des laboratoires pharmaceutiques, agroalimentaires, industrie lourde, luxe, il y a plein de maisons de luxe qui sont membres du club, tourisme, services, hôtellerie, éducation, tout ça vaut de l'or, tu vois. Dans l'hôtellerie, j'ai un paquet de patrons de très grands hôtels qui sont présents. Je te parlais tout à l'heure du patron du Crillon qui est membre, le patron du Phuket's qui est membre, le patron du Brac qui est membre, le patron du Prince de Galles qui est membre, le patron du Royal Monceau qui est membre, le patron du Shangri-La qui est membre. Attends, c'est des contacts qui valent de l'or.
Complètement, complètement. Ouais. Tu es des fois approché par des personnes qui te disent combien tu me vends ton carnet d'adresses WhatsApp?
Non, jamais. Non, jamais.
Jamais.
Allez. Non, on m'a jamais proposé. Et puis, quand bien même on me proposerait, je le vendrais pas. Enfin, tu vois, je veux pas m'amuser à vendre des numéros de téléphone et tout. Après, je suis souvent sollicité sur les réseaux sociaux pour des candidatures ou des CV ou tel contact, et voilà, si je peux le faire, je le fais. Bon, après, je te cache pas qu'il y a quand même pas mal de demandes, mais réellement, voilà, quand c'est demandé gentiment et tout, j'essaye de le faire autant que possible, mais je vais pas vendre mon réseau, mon carnet d'adresse, enfin, tu vois, moi, je m'éclate avec mon club, et si je peux travailler jusqu'à 80 ans, je le ferai. Il y a aucune allusion à l'actualité politique.
Complètement. Tu parlais récemment de LinkedIn, comme quoi c'était un outil accessible, simple, gratuit pour pouvoir contacter quiconque et autres. Tu as raison, c'est vrai. Moi, pendant longtemps, au départ, j'utilisais LinkedIn. Après, je l'ai négligé pour d'autres moyens d'acquisition plus, on va dire, plus dynamiques, où je pouvais appuyer sur des boutons et faire voir mon visage par 10 000, 100 000, 1 million de personnes par mois plus facilement, tels que Facebook, YouTube ou autre. Mais LinkedIn, ça reste du qualitatif. Aujourd'hui, je te vois de plus en plus présent sur LinkedIn. Alors, peut-être que tu l'as toujours été, mais là, en tout cas, c'est étant moi aussi de retour sur ce réseau, je te vois passer. Puis, on a 2-3 contacts en commun aussi, ce qui fait que ça facilite la chose très clairement. Dans quelle mesure, pour un business model comme le tien, tu estimes l'importance des réseaux sociaux, alors que ce soit en particulier LinkedIn ou des réseaux sociaux et du digital en général? Est-ce qu'on doit avoir une présence en ligne? Est-ce que c'est indispensable et que c'est optionnel? Surtout que toi, en plus, tu as une clientèle qui est vraiment sur des business pour la plupart assez cartésiens, physiques, peut-être même assez old school. Même si ils doivent aussi être présents sur le digital, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue.
La présence sur les réseaux sociaux est incontournable. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le Challenge Business Club est présent évidemment sur Twitter et sur Instagram. Et je te confirme que j'utilise quotidiennement LinkedIn. J'y passe au bas mot. Aller au moins 30 minutes par jour, donc ce qui est pas mal, mais je me fais au moins une demi-heure de LinkedIn par jour.
En termes de business, il n'y a pas mieux. On a accès à tout le monde. Chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise, chaque dirigeant devrait avoir son profil LinkedIn parfaitement à jour et être actif en postant occasionnellement. Enfin, tu vois, évidemment, pas poster tous les jours, mais au moins en étant un peu actif et en postant occasionnellement. Je ne sais pas, moi, occasionnellement, ça peut être au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, tu vois, mais ne pas faire le mort. C'est extrêmement important d'être visible. Voilà. LinkedIn, c'est effectivement un réseau virtuel. N'empêche que c'est très complémentaire des clubs en présentiel comme le Chinese Business Club. Tu peux, au club, moi, les gens se rencontrent, ils peuvent très bien, dans la foulée, s'ajouter sur LinkedIn, comme ça au moins ils restent en contact, ou inversement, se connecter via LinkedIn en se disant bah, tiens, on se verra au prochain déjeuner d'affaires du Chinese Business Club. Donc tu vois, c'est très complémentaire.
Ouais.
On en parlait d'ailleurs avec il y a un mois, j'étais invité sur le plateau d'Europe 1 par le journaliste Pierre de Villeneuve. On était invité avec Fabienne Arata, qui est la directrice générale de LinkedIn France. Et donc, c'était vachement intéressant parce que, ben justement, on s'apercevait qu'on était très complémentaires. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, évidemment. C'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est l'un et l'autre.
Complètement. Bah, finalement, un club comme le tien, c'est ni plus ni moins que LinkedIn en physique et avec des filtres de qualité qui font justement la notoriété du club et sa qualité finalement. Et LinkedIn, bah, c'est pareil, mais en digital, en online.
Sauf digital et puis avec plus de monde sur LinkedIn parce que sur LinkedIn t'as des millions
parce que c'est accessible à tous, exactement.
Exactement, c'est ouvert à tout le monde, il y a des millions de d'abonnés, enfin je sais pas comment on dit,
ouais.
D'inscrits. Moi au Chinese Business Club, il y a qu'une centaine de sociétés membres, mais à chaque déjeuner on est 200 couverts, enfin tu vois, donc ça reste évidemment très limité. Moi au club, j'ai vraiment que des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des dirigeants, ce ne sont que des décideurs.
Ouais.
Voilà, également des politiques, des sportifs professionnels, des journalistes, enfin voilà, je ne vais pas trop faire la présentation du club, mais évidemment que les deux sont très complémentaires et il faut être actif aussi bien dans un club en physique, parce que LinkedIn tout seul, ça ne sert à rien, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis bluffé de constater qu'en rencontrant plein de jeunes entrepreneurs, au final, assez peu d'entre eux sont membres de cercles d'affaires, de clubs d'affaires, etc. Et je pense que c'est une erreur. Alors après, évidemment, il y a il me dit c'est une question de temps et tout, mais je pense que c'est pas du temps perdu, c'est un vrai investissement. La preuve, c'est que moi au club, ils renouvellent tous les ans. Donc s'ils renouvellent, c'est qu'ils ont un ROI. Il n'y aurait pas de retour sur investissement, il ne resterait pas.
En fait, l'excuse du temps, tu arrêtes de l'énoncer lorsque tu te rends compte qu'en fait, bah, tu faisais erreur tout ce temps-là et que c'est souvent une question de priorité. On a toujours le temps et à partir du moment où tu te rends compte du ROI ou quoi que ce soit, le temps, tu le trouves. Donc, non,
bah, déjà, un, tu le trouves et puis ouais. Deux, les gens qui me disent c'est cher, je dis mais attendez, si ça se trouve, vous allez dépenser 9500 euros et vous allez en gagner 5 ou 10 fois plus.
Ouais, complètement.
Et puis même, au-delà du retour sur investissement matériel, il y a toute la valeur immatérielle en rencontrant, tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure des journalistes, je suis désolé, quand tu te retrouves avec un article ou je sais pas quoi dans un média comme Challenge ou Le Point ou BFM ou je sais pas quoi, bon, bah mine de rien, ça a une vraie valeur immatérielle. Mmh. Oui, tu gagnes pas de l'argent, mais c'est une vraie valeur immatérielle.
C'est ça, ou une autre valeur immatérielle, tu vois, typiquement, regarde dans ton cas, il a fallu un seul conseil d'un ami entrepreneur pour littéralement transformer l'avenir de ton business et de ta vie. Et moi, c'est le vois dans des networking, dans des réseautages, dans des choses. Des fois, il suffit d'un seul conseil, toi qui es la tête dans le guidon par rapport à ton business, boum, une réflexion, ah mais tiens, mais t'as pensé à faire ça comme ça, parce que j'ai vu ça aux États-Unis ou machin, ailleurs. Mais
évidemment, et au-delà, et Alec, au-delà même des conseils que tu peux recevoir, je trouve ça tellement stimulant de rencontrer des entrepreneurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui y croient, et enfin tu vois, ça donne la niaque, quoi, enfin vraiment, c'est, moi je rencontre plein de profils différents, et je suis émerveillé à chaque fois de la motivation, etc. Waouh, quoi, tu vois. Là, je viens de rencontrer deux petits jeunes qui sont dans le sud et qui ont monté une marque de thé qui s'appelle T-Shop, T-Shop officiel. Et ils sont assez bluffants, ils ont plein de bonnes idées. Ils font en plus du thé classique, du thé culinaire. Donc, ils commencent à bosser avec quelques chefs, etc. Waouh, franchement, génial. Génial, tu vois. Et pourtant, ils sont tous les deux étudiants entrepreneurs, tu vois. Donc, c'est extraordinaire.
Ouais. Ouais.
Voilà.
C'est clair. Aujourd'hui, les barrières à l'entrée sont telles que on a de jeunes entrepreneurs qui, un, explosent tous les scores et deux, surtout, font de merveilleuses choses. Donc, je te rejoins. J'ai une avant-dernière question pour toi. Tu disais tout à l'heure que le modèle économique du club fait que, et même sa structure et la qualité au sein des membres, le suivi et autres, tu vas pas pouvoir monter à 5000, 100, 120, 150 maximum. Aujourd'hui, tu es déjà plus d'une centaine de sociétés. C'est quoi la vision du club à 5 ans, à 10 ans, vu que tu as cette vision de legacy et de vouloir laisser quelque chose, créer quelque chose de plus grand que toi? J'imagine que tu y as pensé également. C'est quoi ta vision à 5 ans ou 10 ans du business club?
Déjà, alors effectivement, tu as raison, je ne peux pas augmenter le nombre de membres, mais par contre, je peux augmenter le revenu par membre. C'est-à-dire qu'à défaut d'augmenter le nombre de personnes, je peux toujours augmenter les adhésions ou le revenu par membre. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui augmenterait le chiffre d'affaires. Après, ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Il y a déjà suffisamment d'inflation, etc. Donc, j'évite. Mon but, mon cher Alex, c'est de continuer à garder ce positionnement premium en allant toujours plus loin, toujours plus haut, en faisant venir des personnalités au club. Toujours, moi, je veux que les gens continuent d'avoir l'effet waouh, même quand c'est leur 10e, 15e, 20e fois où ils viennent. Et tu vois, mine de rien, ça, c'est du boulot, parce que j'ai pas envie que les gens se lassent, tu vois ce que je veux dire, et je veux qu'à chaque fois qu'ils viennent, tu sais, c'est marrant, à chaque fin de déjeuner, j'en ai plein qui viennent me voir en me disant « Waouh, Harold, ce déjeuner, c'était le meilleur que t'aies fait ». Et ce qui est marrant, c'est que j'en ai plein qui viennent me voir à chaque fin de déjeuner en me disant « Oh là là, c'était extraordinaire, bravo, c'était le meilleur des déj, etc. » Et donc, ça fait plaisir, parce que tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut maintenir ce positionnement. Et il faut continuer à avoir l'effet waouh à chaque événement du club, à chaque réunion du club, à chaque cocktail, à chaque déjeuner, etc. Donc, voilà, je veux dire, le club, foncièrement, il ne changera pas dans les 5 ou 10 prochaines années. A priori, je te dis, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je conserve le nom du club Chinese Business Club, même si, une nouvelle fois, actuellement, on est franco-français à 90%. Mais tout ça évoluera dans le temps et on verra. Tu sais, déjà, le fait d'avoir résisté au Covid, c'est déjà une belle performance. Parce que,
pour un club physique, moi, c'est clair.
Bien, bah oui, moi pendant un an et demi, j'ai pas fait d'événement en physique, donc heureusement les membres n'ont pas été impactés parce que j'ai automatiquement prolongé les adhésions de toutes les sociétés membres, de telle sorte qu'ils ne soient pas impactés financièrement, mais effectivement oui, le club n'a pas eu de revenus pendant 18 mois, donc bon, un peu long quand même.
Ouais, non, mais clairement. J'ai une toute dernière question pour toi. D'ailleurs, merci pour cet échange. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que je n'en ai eu à l'animer, faites-le nous savoir en mettant les 5 étoiles sur la plateforme de podcast, l'avis sur votre plateforme de podcast préférée et en partageant cet épisode. Vous aurez aussi les différents liens pour retrouver Harold et le Chinese Business Club directement dans la description du podcast. Ma question, c'est la suivante, je la pose à chaque...
Et Alec, je t'interromps un instant, tu crois qu'au bout d'une heure de podcast, il y a encore beaucoup de monde qui nous écoute là ?
Oh, tu serais étonné, figure-toi, on a un taux de rétention qui est assez extraordinaire. Ah. Alors, on n'est pas à 90% comme toi en général, j'avoue, mais on est quand même sur un taux de rétention qui est au-dessus de la moyenne des podcasts, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on monte au classement des podcasts en France.
Ah, bravo. Non, mais je te chambre, mais bravo.
Merci. Non, mais c'est chouette, et bientôt on sera sur le podium, tu verras.
Alors, la dernière question, tu me disais.
La dernière question, c'est tout simplement, parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode qui tient à cœur, ta carte blanche, qui a créé comme un déclic chez toi, limite une transformation identitaire? Ça peut être perso, ça peut être pro, ça peut être une situation, une citation, une frustration, une réussite, un échec, peu importe, ta carte blanche pour le mot de la fin.
Ok, écoute, oui, j'ai une idée, c'est une citation, alors par contre je serais incapable de dire de qui elle est, mais il y a une phrase que j'aime bien et que je me répète dans ma petite tête en cas de moment dur, donc si jamais il y a des entrepreneurs qui traversent des périodes compliquées, il y a une phrase que j'aime bien et que je trouve belle et vraie, c'est « quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé ». Alors, ça peut paraître évidemment très bateau et très bête comme phrase, mais je trouve que c'est une belle citation. Une nouvelle fois, je ne sais pas qui en est l'auteur, mais j'aime beaucoup cette citation. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. pour dire que bah, avec le temps, on surmonte plus facilement les choses avec le temps, et ce qui est vrai aussi bien à titre professionnel qu'à titre personnel. Dans toutes les situations, je trouve que cette phrase s'adapte.
Parfait.
Non,
merci, Harold.
Tu m'as pas l'air convaincu, là.
Si, si, complètement. Non, non, tu as totalement raison. C'est juste qu'à chaque fois, sur le mot de la fin, je ne réagis pas forcément comme je peux réagir aux autres réponses.
Non, mais voilà, écoute, moi, c'est une petite phrase que j'aime bien, et je trouve que dans les moments difficiles, bah, c'est, voilà, plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de me la répéter. Et voilà, c'était mon mot de la fin, mon cher Alec.
Merci à toi pour cet épisode. Merci pour cet échange. C'était vraiment un plaisir, franchement. Un échange de qualité et une belle découverte avec l'envers du décor du Chinese Business Club, et continue à faire ce que tu fais, c'est top.
Génial. Et puis pour les auditeurs qui souhaitent me contacter, il y a une rubrique, il y a une page contact sur chinesebusinessclub.fr, ou sinon via LinkedIn, où j'essaye de répondre quand je peux.
Parfait, merci.
En tout cas, merci beaucoup Alec pour toutes ces questions, et à très bientôt, avec plaisir.